Nous avons envisagé la dernière fois ce qui constitue la première condition d'une sortie de crise de la démocratie, se délivrer de l'hypnose économiciste, en remettant l'économie à sa place et en la regardant pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la branche principale de l'orientation historique, composant elle-même de la structuration autonome, sous l'aspect de l'autoproduction matérielle et intellectuelle du monde humain-social. Hypnose économiciste qui n'est pas moins trompeuse, il vaut la peine de le souligner, sous son visage orthodoxe et dominant d'apologie de la société de la connaissance et de son complexe juridico-technico-marchand, que sous son visage hérétique et protestataire de la dénonciation d'un capitalisme supposé asservir l'ensemble du fonctionnement collectif. La dénonciation peut être un piège qui mythifie l'objet qu'elle voue à la vindicte. Il faut à l'inverse démythifier en déconstruisant ce pseudo-concept de capitalisme afin de mieux cerner les réalités qu'il recouvre. C'est la condition pour le rendre maîtrisable et en particulier pour aborder dans les termes appropriés la limite sur laquelle bute aujourd'hui l'expansion de la société dite de la connaissance et de son complexe juridico-technico-marchand. Une limite qui n'est pas qu'écologique. La limite de l'artificialisation du monde humain social et derrière la limite de son fonctionnement irréfléchi. Je vous recommande au passage un petit livre qui vient de paraître sur ces matières, qui me semble exemplaire de la bonne démarche pour aborder ces réalités. C'est un livre de François Morin qui s'intitule « L'hydre mondiale », sous-titre « L'oligopole bancaire ». Je crois qu'on a là l'exemple d'une analyse sans complaisance, mais aussi sans fantasme, sur la manière dont fonctionne réellement le dit capitalisme dans les conditions actuelles. Pour cette ultime séance, il me reste à aborder le second volet de cette exploration des issues possibles, le problème de la démocratie proprement dite, tel qu'il se présente à nous, profondément renouvelé par la décantation de la structuration autonome et ses suites. Nous avons vu en quoi la décantation de la structuration autonome débouche, sous l'aspect justement de cette dynamique juridico-technico-marchande, sur une irréflexion essentielle, sur une manière d'hétéronomie, non plus substantielle, mais fonctionnelle. Rien de religieux ou de transcendant là-dedans, ça marche selon des règles et des principes qui ne relèvent que de la raison humaine, la société de la connaissance, mais ces règles et ces principes déterminent un mode de fonctionnement automatique et aveugle qui échappe à tous, y compris à ceux qui occupent une position privilégiée ou dominante dans ce dispositif. Nous tournons le dos à l'autogouvernement pour le résumé d'un mot. Notre question dans cette situation est celle des chances de l'autonomie véritable. La question de la possibilité d'un fonctionnement autonome de la structuration autonome. La chose la moins évidente qui soit. Sommes-nous en train de découvrir douloureusement, voire la chose du monde la plus difficile qui soit, si paradoxal que cela puisse paraître de prime abord. Mais paradoxal, ce ne l'est nullement. C'est au contraire parfaitement logique, comme il apparaît dès qu'on veut bien y réfléchir. Que serait une autonomie qui consisterait à se laisser porter par une machinerie qui fonctionne toute seule sans qu'il soit besoin de s'en occuper? Autonomie, c'est, et ce ne peut être que l'inverse d'automatisme. Voilà tout notre problème d'aujourd'hui. Autonomie, cela veut dire nous devons tout vouloir et assumer en conscience de nos conditions d'existence. Plus nous avons de moyens de liberté, et plus l'emploi de ces moyens devient exigeant. Et il ne saurait en être autrement. Précisons ce diagnostic de crise de la démocratie. La démocratie des modernes, en cela profondément différente de la démocratie des anciens, c'est ce que je me suis efforcé d'établir sur la base de l'élucidation de son parcours des trois derniers siècles, c'est un régime mixte d'un genre inédit, dont le problème constitutif est de combiner de manière équilibrée et maîtriser trois composantes, comme l'ancien régime mixte, aristocratie, monarchie, démocratie, mais trois composantes d'une autre nature, en l'occurrence, les trois composantes de la structuration autonome, le politique qui lui procure son cadre d'exercice sous les traits de l'État-nation, le droit qui lui fournit son principe de légitimité sous l'aspect des droits de l'homme, l'orientation historique, enfin, qui lui procure son horizon pratique d'autoconstitution matérielle et intellectuelle. Trois composantes à la fois solidaires en dernier ressort et problématiques à faire tenir ensemble, étant donné leurs prétentions, chacune à l'autosuffisance. De cette difficulté à faire tenir ensemble ces trois composantes, nous avons la répercussion directe dans l'espace public démocratique, avec son partage irréductible entre un parti conservateur du politique, un parti libéral du droit et un parti socialiste ou simplement progressiste du social historique. En schématisant à outrance, bien entendu. Mais le point que je voulais marquer, et nous allons y revenir, tant ses conséquences vont loin, est qu'à la racine du pluralisme idéologique de nos régimes, il y a leur pluralité primordial de composantes. Pareille articulation équilibrée entre politique, droit et histoire s'est ébauchée durant la phase de stabilisation des démocraties. 1945-1975. Cette articulation constitue l'arrière-fond de la formule des démocraties libérales dans la plénitude des termes qui s'est trouvée en Europe durant cette période. Derrière l'entrelacement de la dynamique libérale et de la puissance démocratique qui s'est dessiné à ce moment-là, il y a eu une certaine conjonction favorable de la forme État-nation dans sa double dimension d'exigence de citoyenneté et d'autorité publique, de la logique du droit sous l'aspect des droits sociaux, et de l'orientation historique sous le visage de la société d'organisation et de l'économie fortiste. Pour rappeler de nouveau toutes ces choses dans les termes les plus rapides. Une conjonction favorable que le tournant des années 1970 a mise à mal, en bouleversant l'allure du politique, du droit et de l'orientation historique à la faveur de ce que nous avons longuement analysé comme radicalisation de la modernité ou, plus précisément encore, décantation de la structuration autonome. Cette révolution silencieuse a mis en place un nouveau régime mixte, mais un régime mixte que nous pouvons dire perverti ou dévoyé. Je n'emploie pas le terme classique de corruption parce qu'en la circonstance, il me paraît mal approprié. Nous allons voir pourquoi. Ce régime peut être valablement dit mixte, puisqu'il fonctionne bel et bien selon une combinaison de politique, de droit et d'histoire. Une combinaison fonctionnellement très efficace et très puissante, mais une combinaison trompeuse et tronquée, qui escamote ce qu'est en vérité le politique, ce qu'est en vérité le droit, ce qu'est en vérité l'histoire. Une combinaison où le politique est réduit à son rôle infrastructurel, dans l'ignorance de ce qu'il implique de souveraineté des citoyens et de puissance collective sur soi. Une combinaison où le droit occupe le devant de la scène, mais sous son seul aspect d'indépendance des individus, aux dépens de sa dimension d'appartenance, une combinaison où l'orientation historique règne comme jamais, mais dans un présentisme qui refoule l'histoire à l'intérieur de laquelle elle s'insère. Soit le dispositif de la société qui fonctionne à la connaissance. La connaissance, dans une acception très précise, la connaissance positive du droit, la connaissance scientifique et technique, ou la connaissance du calcul économique, d'utilité ou d'efficacité. Avec la méconnaissance massive qui constitue l'envers de cette connaissance. Relativement à ce que veut dire droit et aux conditions d'inscription du droit dans la vie collective, mes connaissances en matière aussi bien de connaissances, mes connaissances de ce qui permet la connaissance objective de la nature et mes connaissances des possibilités de l'artifice technique, mes connaissances, enfin, relativement à la signification historique de ce déploiement contemporain à l'intérieur de l'aventure humaine. Autocentré qu'il est, et se donnant pour la vérité aboutie de cette aventure dont on ne conçoit pas qu'autre chose ait jamais été possible. Soit, il faut le rappeler, ici, le dispositif qui assure l'hégémonie néolibérale sur le plan idéologique, dans sa double dimension d'individualisme juridique et d'individualisme économique. Double dimension à ne surtout pas perdre de vue, car l'individu de droit est aussi un individu d'intérêt, un calculateur égoïste, comme la formule classique le rappelle. Même si ces deux dimensions, droit et intérêt, indissociables sur le fond, ne font pas toujours le meilleur ménage en pratique. Il faut rappeler aux vieux marxistes qui dénoncent le règne des intérêts individuels qu'ils escamotent un peu vite les droits qui vont avec ces intérêts, et aux jeunes droits de l'homiste angélique, il faut rappeler qu'ils oublient trop facilement en route les intérêts qui forment la contrepartie de ces droits. Ce dispositif possède une remarquable efficacité fonctionnelle. Il a pour lui le système des apparences sécrété par la configuration structurelle sous-jacente. Il doit le principal de sa force, en outre, à son ancrage intellectuel dans la tête des acteurs. Pas du tout sous la forme d'une adhésion idéologique à la doctrine néolibérale, qui n'est pas de saison et qui est parfaitement inutile dans ce dispositif. Il n'a aucun besoin de ça. Sous la forme minimale et pragmatique de l'évidence interne des connaissances mobilisées par ces différentes catégories de professionnels qualifiés, de praticiens, des juristes, des politistes, des économistes, des gestionnaires, administrateurs, ingénieurs, chercheurs, etc., etc. C'est ce qui peut donner l'impression d'une société post-idéologique, comme on le voit souvent écrit. À cela près qu'il ne faut pas s'arrêter à cette apparence et aller chercher du côté de ce qui permet l'économie apparente de l'adhésion idéologique dans ce fonctionnement propre de la société de la connaissance. Nous nous retrouvons à cet égard dans une situation pascalienne où la ligne de partage à l'intérieur de nos systèmes politiques passe de plus en plus nettement entre les simples qui ne comprennent pas grand-chose mais qui voit en gros que ça marche mal, en plus de subir le gros des dégâts, et les demi-habiles, les initiés qui font tourner la boutique et qui savent à peu près, eux, comment ça marche, puisqu'ils tiennent les manettes, mais qui sont incapables de comprendre pourquoi ça marche mal. C'est le sens de la fracture du diplôme qui fait du niveau d'éducation la variable de plus en plus déterminante des options politiques. Et c'est ce qui meut les phénomènes dits populistes. Une catégorie en elle-même très significative, puisqu'elle veut tout simplement dire que les élites ne comprennent rien à ce qui se passe dans la tête des peuples. Elles ne comprennent rien en particulier au cafouillage général qui accompagne cette fonctionnalité relative. Déshérence de la politique, frustration démocratique, gouvernance irresponsable, malaise identitaire, sentiment d'impuissance et d'inintelligibilité. Pour finir, dans la perspective de la catastrophe finale qui s'impose comme la seule figure plausible de l'avenir. Je ne refais pas le détail de ces manifestations. Elles s'expliquent par la conjugaison des méconnaissances que nous avons pointées à chacun des étages de cette mécanique d'ensemble. La difficulté très inattendue devant laquelle nous nous trouvons, la difficulté qui rend problématique la sortie de cette situation, c'est que nous n'avons plus affaire à l'ignorance et aux préjugés, comme au beau temps des Lumières, auquel nous pourrions opposer les progrès de l'éducation et de la connaissance, c'est que nous avons affaire à la connaissance elle-même. Une demi-connaissance, en fait, mais qui ne se sait pas pour telle et ne doute pas d'elle-même. Nous sommes devant des sociétés qui ne veulent rien savoir à de certains égards parce qu'elles croient savoir. Cette bonne conscience est le plus gros obstacle sur le chemin. C'est le lieu de revenir aux Lumières et à ce qui fut leur débouché sommital, la philosophie critique. Non pas simplement la philosophie militante voulant mettre la raison au pouvoir contre l'ignorance des préjugés ou la fausse autorité de la révélation. C'est fait. La tâche est accomplie. Pour l'essentiel. Je parle naturellement dans nos contrées. La philosophie qui soumet, philosophie critique, la philosophie qui soumet la raison elle-même à la critique. Ou plus exactement, la philosophie qui déploie les potentialités de la raison jusqu'à la rendre critique d'elle-même et de ses limites. Car seule la raison peut valablement critiquer la raison et nous permettre d'accéder à une connaissance supérieure construite autour de la réflexion sur ses possibilités et ses limites. notre contexte de crise redonne une actualité saisissante à la démarche kantienne, dans un tout autre registre que celui qu'envisageait Kant. Ce qu'il ne pouvait anticiper, ou ce dont il n'a pu voir que les prémices, c'est l'entreprise de concrétisation de la raison qui s'est accomplie depuis deux siècles à la faveur de l'orientation historique. C'est par rapport à cette entreprise que la démarche criticiste, mieux vaut employer ce terme savant pour éviter la confusion avec la pseudo-critique des roquets postmodernes, c'est par rapport à cette entreprise que la démarche criticiste acquiert son emploi décisif de planche de salut. Nous n'avons plus rien à redouter des divagations des métaphysiciens. Nous les regrettons même. En revanche, nous avons un besoin urgent et décisif d'une critique du droit. D'où vient-il? Que peut-il? Où s'arrête-t-il? Nous avons un besoin urgent et décisif d'une critique de la politique. Nous avons un besoin urgent d'une critique de l'artificialisme technique ou du calcul économique. Bref, nous avons besoin d'une critique de la raison projetée dans l'histoire et constituée bel et bien comme le moteur pratique de cette histoire. L'autonomie sera auto-réflexive ou ne sera pas. Et encore une fois, par essence, rien ne peut t'obliger à ce qu'elle soit. Nous pouvons rester indéfiniment dans le désert en vue de la terre promise sans l'atteindre. Concrètement, en regard de notre régime mixte perverti, la tâche, définie dans l'abstrait, est de rendre chacun de ces éléments à sa vérité complète, en réintégrant sa face repoussée dans l'ombre, en réarticulant donc le politique et la politique, l'appartenance et l'indépendance de droit, l'orientation historique et l'histoire. Cela ne peut se faire que sur la base d'une démarche réfléchie, élaborant les raisons de cette duplication, qui se ramène chaque fois, sous un visage différent, nous l'avons vu, à l'articulation de l'universalité rationnelle abstraite et de la singularité concrète associée aux conditions d'existence de l'humain social, de l'être soi et de l'être ensemble. Belle formule, me direz-vous, mais formule impraticable. Sauf à supposer l'advenue de peuples de philosophes dont les assemblées délibérantes méditeraient sur les limites de la rationalité du droit ou sur les conditions d'effectivité de la politique. Premier motif de doute auquel il faut en ajouter un second, qui est que la vie habituelle des peuples, hors de moments d'exception moment fondateur, moment constituant, moment, autrement dit, d'explicitation des principes, la vie des peuples doit pouvoir se dérouler selon des procédures qui matérialisent ces principes sans qu'il soit besoin à chaque fois d'en avoir une conscience claire ou d'en refaire la théorie complète. Heureusement pour nous, les choses ne se passent pas de cette façon. Il ne s'agit pas de mettre les philosophes au pouvoir, événement aussi peu probable qu'aussi peu souhaitable. La philosophie est là pour jouer un rôle inspirateur, pour signaler des obstacles, pour encourager des évolutions, en un mot, pour contribuer à l'élévation du niveau de conscience des acteurs, si j'ose reprendre cette formule qui a fait de bien mauvais usage. Mais en aucun cas, la philosophie n'est là pour déterminer ou commander la conscience des acteurs. Cette conscience, heureusement pour nous, encore une fois, chemine sans elle. Au moins jusqu'à un certain point. La philosophie peut en amplifier les effets, en accélérer les retombées, en explicitant les termes de cette conscience diffuse, mais elle n'en est évidemment pas la détentrice exclusive. C'est que les acteurs ne pensent pas dans le vide. Ils ont une expérience enracinée dans la structuration collective et ils tirent des leçons plus ou moins claires de ce qu'ils éprouvent, de ces dysfonctionnements ou de ce qu'ils ressentent comme ces progrès. Dans le cas, ils vivent la frustration qui résulte de l'évanescence du politique. Ils mesurent au quotidien les abus du droit. Ils apprécient l'absurdité destructrice d'un certain fonctionnement économique ou encore la folie de la dynamique de l'artificialisme technique. Cela ne signifie pas qu'ils en saisissent les raisons, mais ils n'ont pas besoin de théorie critique pour discerner que les choses ne tournent pas rond et pour entrevoir intuitivement les grandes lignes de ce que pourrait être un autre mode de fonctionnement. C'est par rapport et sur ce fond que la pensée critique peut être un adjuvant efficace. Kant définissait la philosophie, vous vous en souvenez, comme la fondation transcendantale du sens commun. On pourrait parler ici d'une justification incitative à l'action en commun. Ce que je voudrais montrer, justement, c'est que nous avons d'ores et déjà les prémices de la transformation qui rendrait les démocraties capables d'un tel dépassement de leur impasse actuelle. L'évolution de l'esprit du fonctionnement démocratique dans la durée témoigne, me semble-t-il, témoigne d'un progrès dans la conscience de ce que les démocraties sont en vérité. Progrès encore très confus, obscur, implicite, mais qui affermit, mieux élaboré, explicité, fournirait les bases d'un pas en avant dans le sens d'une réflexivité procédurale indispensable au redressement de trajectoire que notre situation appelle. Le premier de ces progrès consiste dans le consentement aux mécanismes représentatifs, sur fond d'admission du principe de la supériorité de la démocratie représentative sur la démocratie directe. Le point reste typiquement de l'ordre d'un sentiment obscur, mais il est en passe d'être acquis après une très longue hésitation. Le fantôme de l'autogestion n'est pas si loin. Dans les faits, ce qui a tranché la question dans la période récente, c'est la consécration du fait libéral, la consécration de la dissociation de la société civile et de l'État. Elle a redonné toute son actualité à l'argumentaire d'un Benjamin Constant en faveur de la liberté des modernes contre la liberté des anciens. La priorité, en résumé, la priorité des citoyens d'aujourd'hui est à leur jouissance privée plus qu'à la participation aux affaires publiques. Mais ce constat, si juste soit-il, ne touche encore qu'à la surface des choses. Il y a derrière bien plus important. Il y a le fait que le mécanisme de la représentation, avec ce qu'il implique de choix de ses représentants, donc de campagne électorale, de discussion publique, de confrontation des programmes, le mécanisme de la représentation permet la figuration des problèmes qui se posent à un pays à un moment donné, ou à une quelconque communauté politique de quelque rang qu'elle soit. Le mécanisme représentatif permet une sorte de point de la situation au sens maritime, au milieu du flux des événements, un point qui n'aurait aucune chance d'émerger en pratique dans la discussion permanente d'une démocratie directe en la supposant praticable. Et ceux qui ont eu l'occasion d'en faire l'expérience directe, c'est le cas de le dire, savent de quoi je veux parler. En un mot, la supériorité de la démocratie représentative, généralement admise aujourd'hui, réside dans sa dimension cognitive. Elle tient fondamentalement au fait qu'elle autorise, au travers et au-delà de la désignation des représentants, la formation d'une représentation au sens intellectuel du terme, de ce qu'est le moment collectif qu'il nous est donné de vivre et des choix fondamentaux qui en découlent pour la communauté des citoyens. Mais une représentation aussi, par la même occasion, de la place de chacun dans ce processus complexe. Le mécanisme de la représentation, c'est ce qui permet aux individus de se situer avec leurs avantages et leurs désavantages dans un espace collectif. La séparation des représentants par rapport aux représentés, tant dénoncée depuis Rousseau, et ça continue, cette séparation fonctionne en réalité comme une médiation réflexive, permettant une appréhension de la vie collective dans l'élément de la représentation. Et par ce biais, une participation qui va infiniment plus loin que l'acte électoral. C'est ici qu'on peut donner toute sa signification au trait énigmatique mis en évidence par mon ami Bernard Manin, qu'est la dimension aristocratique du régime représentatif. Aristocratie, soit, mais quelle aristocratie ? Toute la question est là, non plus une aristocratie de naissance, non plus même une aristocratie du mérite. La réponse est à chercher du côté de ce rôle médiateur qui donne en effet une place à part aux représentants dans l'existence collective. Cette notion de participation, au passage, me semble essentielle pour la compréhension de toute une série de phénomènes déroutants de la vie sociale actuelle. Sur le plan politique, en tout cas, il est clair que la participation est loin de se réduire à la participation électorale. Les canaux par lesquels nous nous sentons partie prenante de la communauté des citoyens sont autrement subtils et profonds. Nous participons ainsi, de manière plus ou moins permanente ou intense, à ce qu'il faut regarder en fait comme un processus représentatif qui ne s'arrête jamais, contrairement de nouveau à ce que disait Rousseau, que je ne prends pas par hasard comme repère ou repoussoir. Il s'agit grâce à lui de mesurer le chemin parcouru. L'élection n'est en aucune façon une dévolution du pouvoir à des gens dont nous n'entendrions plus parler pendant un nombre déterminé d'années. Car elle débouche toujours en pratique sur la formation d'une majorité contrebalancée par la présence d'une opposition. Un fait d'allure parfaitement contingente, qui ne se déduit pas a priori, mais un fait qui en est venu à être reconnu comme une dimension constitutive du régime représentatif. Au point qu'il est des raisons de penser que la figuration de cette division par nature fluctuante est l'objet même du processus représentatif. Il est autant là pour figurer la division d'une majorité et d'une opposition que pour dégager une majorité, comme le veulent les politistes pragmatiques. Les deux sont vrais. Autrement dit, la démocratie représentative, c'est le contraire de l'unanimité de la volonté générale. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Cette division entre majorité et opposition fonctionne d'abord comme une limite. Contre l'image infantile d'une majorité qui pourrait tout se permettre, l'existence de l'opposition est là pour rappeler à la majorité en place, qui prétend gouverner au nom de la collectivité tout entière, la relativité de sa position. Le pouvoir en place ne peut s'exprimer au nom du tout qu'en procédant à des compromis avec l'opposition. Opposition temporairement minoritaire, mais susceptible de redevenir majoritaire. La division vaut rappel de ce que l'alternance demeure une éventualité ouverte. Une autre ligne de conduite serait possible. La majorité ayant à établir en permanence le bien fondé de sa politique. Cette tension interne a pour effet de maintenir la référence à la source du pouvoir qui se situe dans le peuple. Encore ce peuple est-il lui-même traversé de contradictions qui interdisent de le ramener à une unité mythique. Il n'a de sens à être représenté que dans ses partages et ses oppositions internes. Ce fut la chose la plus difficile à digérer dans l'histoire du gouvernement représentatif. Quand le développement du mouvement ouvrier à partir des années 1880 en Europe a installé la lutte des classes et la question sociale au cœur même de l'espace politique. Mesurons la portée de ce fait et la portée du trouble qu'il a introduit dans la doctrine classique de la démocratie et de la citoyenneté. Il était un défi pour elle, puisqu'il remettait radicalement en question l'image classique du citoyen qui s'élève au-dessus de sa position particulière, qui se déprend de ses appartenances pour ne considérer en raison que l'intérêt commun, dans le silence des passions, si possible. Pour finir, au terme d'un processus complexe qui serait passionnant de suivre, mais j'en ai évidemment pas le temps, pour finir, le processus représentatif s'est rebâti et stabilisé autour de la représentation des divisions de la société. Sans doute, l'intérêt commun demeure-t-il la référence dernière, mais cet intérêt commun ne peut être visé qu'à partir de la considération des partages réels qui travaillent la société. La lutte des classes, c'est entendu, n'est plus ce qu'elle était. Le mouvement ouvrier non plus, à loin près. Les clivages sociaux ont profondément évolué. La manière de se les représenter aussi. Mais, contrairement à certaines attentes, les divisions du corps électoral ne se sont nullement estompées pour autant. En fait, il y a plus profond encore que les antagonismes de classe derrière le pluralisme démocratique. C'est ce déplacement que nous sommes en train de vivre. Le roc ultime sur lequel s'ancrent les partages d'opinions irréductibles qui divisent tout espace public démocratique, ce roc ultime, c'est, j'y faisais allusion tout à l'heure, la pluralité des composantes structurelles de l'univers autonome. Nous nous contentons généralement d'une explication superficielle et paresseuse du pluralisme démocratique. N'est-il pas tout simplement l'expression de la liberté individuelle? Chacun pense ce qu'il veut. Donc, beaucoup d'opinions en présence. N'est-il pas l'application directe du principe de tolérance? Le devoir de respect de la diversité des convictions. Tout cela n'est pas faux. Mais en réalité, dans l'espace politique, ces opinions infiniment diverses et dispersées, si on les considère chacune en elle-même, s'agrègent et s'organisent autour d'options fondamentales d'une stabilité très remarquable qui renvoie aux constituants primordiaux de nos sociétés. Leur cadre politique, leur ordre juridique, leur contenu social historique. Constituants primordiaux qui ne font signe vers aucun dépassement et dont l'ajustement est un problème de tous les instants. Réunissez n'importe quel groupe de citoyens sur n'importe quel problème à un moment donné et vous verrez, au bout d'un moment de conversation politique, ces trois options fondamentales réapparaître infailliblement. Le désir d'ordre, le besoin de liberté, le souci de la transformation des conditions d'existence collective. On n'en sort jamais. La pacification démocratique de la période récente, l'apaisement pluraliste des démocraties, vont bien plus loin que la conversion tardive à la vertu de tolérance. Il recouvre la reconnaissance tacite d'une sorte d'éclatement de la vérité politique, où il est enjoint à chacun de reconnaître la vérité partielle des options rivales. Non seulement il y aura toujours une majorité et une opposition, une droite et une gauche, des conservateurs, des libéraux et des socialistes, mais ils ont de bonnes raisons d'exister. Il y a une certaine vérité du conservatisme, il y a une vérité du libéralisme, il y a une vérité du socialisme à laquelle il faut faire bon gré, mal gré, droit, quelles que soient vos inclinations personnelles. Mais sans en même temps qu'une synthèse supérieure soit possible. Les compromis sont obligatoires. Mais la fusion des points de vue antagonistes est impensable. La relativisation des options qui s'ensuit me semble d'ailleurs expliquer une bonne partie du trouble politique actuel. C'est que nous ne sommes pas encore, tout en reconnaissant le fait, nous ne l'avons pas pleinement assumé. Et il est source, dans cette phase de transition, de désengagement, de scepticisme, de refus de se classer. C'est très frappant, des enquêtes sur les opinions politiques d'aujourd'hui. Nous sommes dans un moment d'entrer dans cette logique de coexistence, et ce n'est pas si simple de s'y adapter. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on reconstitue cette trajectoire, qu'on pourrait bien davantage détailler que je ne le fais dans ce survol, on voit s'esquisser un mode de fonctionnement à base de médiation, de séparation ou de division des termes qu'il s'agit d'articuler. Séparation ou division qui permettent leur mise en relation expresse et qui, ce faisant, obligent à la réflexion sur les conditions de leur conjugaison nécessaire. Un mode de fonctionnement à la fois à base d'extériorisation cognitive ou représentationnelle des données de l'existence collective et en prise sur ses constituants fondamentaux. Au passage, c'est cette extériorisation que désigne l'insistance actuelle, nous en avons déjà parlé plusieurs fois, sur la délibération. Délibération est le mot du vocabulaire politique qui s'impose naturellement pour désigner ce travail de réflexion qui s'étend bien au-delà dans le mécanisme collectif des arènes de discussion proprement dites dans la vie collective. Un mode de fonctionnement qui me semble contenir en germe les moyens de la tâche que nous avons définie plus haut, à propos du retournement de notre régime mixte perverti. afin de faire droit à l'intégralité de ces éléments constitutifs. Notre démocratie représentative, telle qu'elle fonctionne effectivement, loin de ses principes théoriques, fournit les bases du supplément de réflexivité en acte indispensable pour ce pas en avant. La confrontation éclairée des parties entre lesquelles elles se divisent peut en fournir le creuset. Il n'y a bien entendu de nouveau aucune nécessité à cela, mais rien d'impossible non plus. Je voudrais, pour conclure, prolonger le propos sur un plan philosophique. Ce qui est en jeu dans ce pas supplémentaire requis par la réalisation du régime mixte des modernes dans sa version complète, complètement développée, c'est l'avènement de la figure du sujet politique moderne. Laquelle figure n'est autre chose que l'inversion systématique de la figure de l'assujettissement religieux. La consommation du processus de sortie de la religion à laquelle il nous est donné d'assister avec la liquidation de l'empreinte de la structuration hétéronome et la décantation de la structuration autonome, cette consommation débouche sur ce possible, son possible par excellence, une mise en forme subjective de la communauté humaine, qui représenterait le pas ultime de la sortie de la religion et de la structuration religieuse. C'est la raison pour laquelle je convoquais Rousseau à titre de repoussoir, de noble repoussoir. Rousseau est l'introducteur de la figure du sujet politique moderne. Sous les traits de ce corps politique que lui appelle souverain et que nous pouvons dire à bon droit autonome, auto-législateur, puisqu'il se sait dans ses principes fondateurs et ses raisons d'être, et qu'il agit en conformité avec ses principes fondateurs par sa volonté générale. Mais selon la logique des formations de compromis que nous n'avons cessé de croiser tout au long de la transition moderne, Rousseau coule cette figure moderne à l'intérieur de la forme ancienne de l'un religieux. Le sujet politique autonome, tel qu'il en fait émerger la figure, suppose la fusion de toutes les volontés au sein de la volonté générale, grâce à laquelle le principe du pouvoir se résorbe au sein de l'union des citoyens et ne fait plus qu'un avec eux. Nous retrouvons, transposé en langage séculier, la figure de ce que l'on peut résumer dans la formule de triple union hétéronome. L'union des hommes entre eux, dans l'union à un pouvoir qui les unit à l'invisible. Elle devient chez Rousseau l'union des citoyens, également libres, dans l'exercice en commun de leur raison et de leur volonté, qui fait émerger un corps politique accordé à ses propres raisons. Le contenu est aux antipodes, la forme est rigoureusement identique. Rousseau introduit une idée qui va hanter durablement la pensée démocratique. La liberté peut faire mieux en matière de production de l'unité humaine que la subordination à un principe transcendant ou que l'assujettissement religieux. Une idée qui va constituer en même temps une impasse. Car l'apprentissage ô combien laborieux de la démocratie effective va consister dans la lente découverte qu'elle emprunte des moyens contraires à cette unité mystique. La dissociation du pouvoir et de la société, l'opposition des opinions, la contradiction des intérêts, l'extériorisation vis-à-vis de soi, la médiation et le détour généralisé au lieu de l'immédiateté. Découverte scandaleuse au regard des repères hérités, qui ne cessera d'alimenter par choc en retour le rejet et la quête de l'unité perdue. Soit sous un signe réactionnaire, restauration de l'unité perdue, soit sous le signe révolutionnaire de l'avènement de la société, enfin délivrée de ses divisions du passé. L'histoire de la démocratie aura gravité durant deux siècles autour de cette tension de tous les instants entre la réalité des scissions qu'imposait son déploiement et le rêve de cette unité à retrouver ou à instaurer. Rêve dont les expériences totalitaires du XXe siècle auront représenté le sommet. Rêve de l'unité de l'État et de la société, rêve d'unité de la société au-delà des partages de classe, rêve d'unité de l'existence collective et de sa science d'elle-même. Nous avons la chance d'être sortis de cette équation et des tensions formidables qu'elle déterminait. dans tous les sens. L'unité hétéronome a cessé de nous parler. Nous sommes sortis de son champ d'attraction. Et nous sommes du coup dans le désemparement d'un changement radical de repère. Nous n'en sommes plus à vouloir faire entrer à toute force l'idée moderne d'autonomie dans une forme ancienne. C'est notre chance. C'est ce qui nous met en position de donner enfin délibérément sa forme moderne à l'idée moderne d'autonomie. Cette forme, c'est la forme sujet, telle qu'elle passe à l'opposé de la conjonction générale que supposait Rousseau par la séparation des termes, la relation entre eux et la réappropriation réflexive des enjeux dégagés par cette mise en relation. C'est un tout autre mode de fonctionnement et une tout autre manière d'être qu'il faut concevoir. Ils produisent une unité supérieure à celle qui résulte de la soumission à plus haut que soi. En même temps qu'une disposition de soi et de ses raisons qui en représente l'exact contraire. C'est dans cette voie qu'il faut chercher l'auto-gouvernement. Le terme sur lequel il faut insister ici est celui de forme. Ce sujet est une forme et ne peut être qu'une forme, en aucun cas une substance. Il n'est pas destiné à s'incarner, à prendre corps dans ce qui serait un état définitif de la communauté humaine. La forme sujet est par essence ouverte. Elle ouvre sur un processus sans cesse à reprendre. Elle permet un rapport à soi de la communauté politique, source possible d'auto-définition et d'auto-détermination, de possession de soi, en un mot, mais elle n'offre rien de plus qu'une simple autorisation sans garantie de résultat. Il est possible et il est nécessaire de la consolider par rapport à son état embryonnaire et incoatif actuel. Il y a de ce point de vue toute une réflexion à mener sur l'architecture institutionnelle et procédurale de nos régimes. Mais même en imaginant de considérables perfectionnements en ce sens, et il en est qui ne sont pas très difficiles à imaginer, il serait vain d'en attendre une efficacité automatique. Il ne peut s'agir que d'un possible concret, mais impossible, qui restera toujours suspendu entre la possibilité d'être saisi ou la possibilité d'être manqué. Ce qu'il faudrait en outre montrer, mais j'arrive là aux limites de mon propos, c'est que c'est dans cette voie qu'il est possible de raccorder l'individuel et le collectif sur le mode de la relation, de nouveau, à l'opposé de l'incorporation holiste de la forme hétéronome, mais aussi à l'opposé de la disjonction caractéristique de la configuration actuelle où le sacre apparent de l'individuel s'accompagne de sa dépossession en règle du point de vue du fonctionnement collectif, où il compte pour rien. C'est le grand paradoxe de la situation actuelle, mais aussi un moteur subjectif puissant. Jamais en théorie il n'y a eu autant de place faite à l'individu, mais jamais aussi d'autre part il n'aura eu aussi peu de poids effectif dans le mécanisme de sa société. Dernier point, c'est à l'intérieur et dans le cadre de cette forme sujet que prend tout son sens, de manière générale, la démarche d'auto-réflexion dont j'essayais de faire ressortir la nécessité en regard de l'irréflexion typique de notre société de la connaissance. Irréflexion dont le vecteur, nous l'avons vu, est l'entreprise de concrétisation de l'universel abstrait, qu'il soit juridique, technique ou comptable. Concrétisation de l'universel abstrait qui est en train de nous fabriquer un monde invivable, dont le découplage du technocosme humain avec la nature n'est que le terme paroxystique. Un terme qu'il ne faut surtout pas isoler du complexe d'ensemble où il s'inscrit. L'objet par excellence, en regard de la démarche d'auto-réflexion requise par la situation actuelle, ce sont les limites de l'artificialisation du monde humain, sous tous ses aspects. Même si, encore une fois, on peut admettre que le suicide écologique représente plus d'urgence que l'invasion juridique ou l'obsession marchande. En fait, on ne sortira pas de l'un sans l'autre, sans les autres. C'est une réforme globale de l'entendement qui est requise, et l'on voit d'ici, il en est question tous les jours, les limites de ce que peut être le traitement de cette question dans les limites du langage spontanément disponible de par la société de la connaissance aux acteurs d'aujourd'hui. Le constat de ces limites ne conduit pas ou ne conduirait qu'à tort à récuser l'universalité abstraite qui se concrétise dans cette artificialisation. Nous ne pouvons pas nous en passer. Elle est une donnée de l'univers autonome. Et on ne peut pas davantage imaginer l'améliorer de l'intérieur. Un grand rêve des scientifiques un peu conscients du problème, mais un pas évident. Nous ne pouvons pas nous en passer, ne serait-ce que parce que c'est son mouvement qui nous oblige à nous interroger sur sa signification, ses conditions de viabilité dans le fonctionnement du monde humain. Nous ne pouvons pas nous en passer, mais nous avons à le réarticuler, à la réarticuler, pardon, avec la particularité concrète sur laquelle elle prend appui et qu'elle peut modifier dans une certaine mesure, mais en aucun cas supplanter. C'est de ce point de vue que nous rejoignons la forme sujet. Nous ne pouvons nous sauver que moyennant cet effort d'intégration dans le fonctionnement collectif de cette réflexion sur les fondements, les conditions et les limites. C'est ainsi à une interrogation de la pensée sur elle-même que nous sommes conduits. L'autonomie, pourrait-on dire, d'une formule synthétique, disjoint et met en relation ce que l'hétéronomie unit. De ce point de vue, nous ne sommes pas au bout du déploiement de la pensée autonome. Ce mode d'union propre à la pensée en régime hétéronome, nous pouvons le dire grossièrement symbolique, en précisant symbolique explicite. Le monde, l'univers autonome, substitue à cette pensée symbolique une pensée rationnelle. Mais ce n'est là qu'un premier moment de son déploiement. Car ce que nous découvrons, c'est d'un côté que cette pensée rationnelle n'annule pas la pensée symbolique, elle la rejette dans l'ombre, elle la rend implicite, d'explicite qu'elle était. Nous sommes toujours dans des sociétés qui fonctionnent symboliquement sans le savoir. Et de ce constat d'écart entre la pensée rationnelle, officielle, visible, explicite, et la pensée symbolique qui continue de jouer un rôle déterminant dans le fonctionnement de nos collectivités, naît la possibilité d'une troisième pensée, qu'on peut appeler proprement réflexive, celle qui se propose précisément d'articuler la pensée symbolique explicite et cette pensée rationnelle par laquelle nous n'avons d'autre voie que de passer. Il faut récupérer cette dimension symbolique explicite moyennant une critique, au sens vrai du mot, de ce qu'oublie en route la pensée rationnelle et l'appui qu'elle prend dans cette pensée symbolique. Cette troisième dimension de la pensée est proprement ce que nous avons à clarifier et à promouvoir. C'est cela, la pensée selon le sujet et sous le signe de l'auto-réflexion. Une pensée avertie de ses propres limites en même temps de ce qui la rend possible. Ce que je voulais vous montrer, donc, vous l'avez bien compris, c'est que, si critiques qu'elles paraissent à tant d'égards, notre situation n'est nullement sans issue. Elle est grosse de possible. Et c'est sur cette note que je voulais terminer. Et sur cette autre note. Elle est en tout cas une situation éminemment philosophique parce qu'elle nous donne à penser. mais la discussion continue. La difficulté de mon propos était le temps qui m'était imparti pour développer une matière particulièrement complexe. Et dans le cas s'agissant de cette catégorie de sujets, le problème est dans l'acception ordinaire du terme de sujet qui le confond précisément avec le jeu. Le sujet, alors il faudrait repartir très en arrière et développer longuement, je ne peux pas. Le sujet psychologique, si je puis dire, n'a rien à voir avec le sujet psychologique, avec le sujet philosophique tel que l'histoire de la philosophie en a fait apparaître laborieusement et de manière complexe la figure. Il s'est produit un phénomène assez passionnant d'ailleurs, qui est la captation de la notion philosophique du sujet, qui est une notion très abstraite au départ, par le sujet psychologique. Mais c'est précisément de ça qu'il faut sortir. Le sujet psychologique, il se caractérise par ce qu'est le contraire du sujet philosophique, c'est-à-dire le rapport immédiat à soi-même, ce dont vous parlez. En ce sens-là, encore une fois, la polysémie est la règle du langage, et donc il faut admettre toutes les acceptions, mais en les maîtrisant autant que faire se peut. Ce sujet-là n'a rien à voir avec ce dont je parle. Ou précisément, pour prendre un exemple très simple, le plus simple, c'est l'émergence même de la notion de sujet au sens philosophique. C'est la révolution scientifique moderne. Le sujet, c'est la révolution scientifique moderne qui le fait apparaître sous les traits du sujet de connaissance. Qui connaît ? C'est pas le jeu psychologique. C'est un acteur que nous sommes obligés de supposer et qu'on va appeler tout bêtement la raison. Le sujet de raison, qui met en œuvre par un certain type de procédure la possibilité d'accès à un certain type de vérité, différent de la vérité ordinaire. Et différent notamment par une propriété remarquable, c'est sa communicabilité et son universalité. N'importe quel sujet, pour le coup, mis en rapport avec cette connaissance, ne peut que qu'y entrer et l'approuver. C'est une chose qui ne va absolument pas de soi. C'est le contraire de l'acte de foi. Autrement dit, personne n'est sujet de connaissance. C'est une expérience possible dans certaines conditions, par rapport à un ensemble de règles et d'outils bien déterminés. Sujet, au sens philosophique du mot, c'est toujours se connecter à autre chose que soi. C'est une expérience de rapport avec autre chose que soi. C'est le contraire, en ce sens-là, du sujet psychologique qui n'a besoin que de lui-même pour se référer à lui-même. Il est sous le signe d'une certaine relation à un autre qui le met en rapport avec ses pareils. C'est ça, il y a un élément de communauté. Le sujet de raison, il n'est pas isolé, il est membre d'une communauté de sujets de raison. Et on peut même supposer, c'est ce que certains esprits en ont tiré, qu'il n'y a qu'un sujet de raison, en fait, auquel nous accédons chacun à notre manière, dans notre temporalité, mais en nous branchant en quelque sorte sur lui. Et à partir de là, il y a tout un déploiement qui conduit à à la détermination d'une série d'expériences subjectives dont le modèle premier est la connaissance, au-delà de la connaissance, et par exemple dans le domaine politique, sujet que jadis nous avons longuement exploré dans ce séminaire. C'est donc de ce sujet-là que je parle, hein, et pas, encore une fois, du sujet psychologique, même si la confusion est inévitable, et il ne faut pas se lasser de la reprendre. Parce que, et la question est d'autant plus épineuse, que par ailleurs, il y a de la subjectivité au sens philosophique que j'emploie dans l'ordre psychologique, mais sur un tout autre plan, sur un tout autre plan qui n'est pas justement cette, la conscience de soi, pour le dire tout bêtement, dans le langage le plus classique.
Oui.
Oui, pardonnez-moi.
Et je ne serais pas aussi radical que vous, même si après vous avez modifié un peu les propos, parce qu'il y a relation quand même entre les sujets psychologiques, comme vous dites, en tant que connaissance de soi et recherche de vérité. Je veux dire, de la même manière que le sujet politique est à la recherche d'une vérité par la raison, ce n'est pas à vous que je dirais que le psychanalyse est né dans ces eaux-là. Mais ce que je pensais avant qu'on aborde la question du sujet psychologique et du sujet politique, les sujets aujourd'hui, justement, ne cherchent pas la vérité. Et pas seulement ils ne cherchent pas la vérité, ils évitent la vérité. Et j'ai l'impression qu'on évite la vérité, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, hein, et des peurs, des tensions. Ce qu'on évite le plus, c'est la tension interne. Hein. Et je me disais que cette peur de la tension est en quelque sorte le produit de la démocratie, c'est-à-dire de l'apaisement des rapports sociaux. Et c'est de cet apaisement-là qu'il faut sortir.
Si je comprends bien, vous êtes pour la guerre civile. Je vois bien ce que vous voulez dire. Blague à part. D'abord, je ne vous apprendrai rien non plus en vous disant que c'est pas parce qu'on veut pas savoir et qu'on veut fuir la vérité qu'elle ne vous rattrape pas. Ce qui est tout à fait précisément l'expérience propre. S'il y a des psychanalystes, c'est à cause de ça. Sinon, chacun se débrouillerait plus ou moins les moyens du bord. Mais il ne suffit pas de ne pas vouloir pour que ça ne vous rattrape pas violemment. Et précisément, l'autre très particulier, la figure de l'autre, qui est, encore une fois, sujet, c'est toujours rapport avec autre chose que soi. Et l'intéressant dans le domaine psychanalytique, c'est que l'autre que soi, il est en soi. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher plus loin. À demeure, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous tourmenter très sérieusement, et le cas échéant. Voilà. Donc, et là aussi, justement, c'est d'ailleurs à la psychanalyse largement que nous devons cette confusion du sujet philosophique et du sujet psychologique. Hein. Et pour des raisons de fond, d'une certaine manière. En même temps, de très mauvaises raisons aussi. L'apaisement démocratique, c'est, à part ça, vous touchez à un point très important, dont l'analyse est à faire, obéit à des raisons très différentes. Je pense qu'il ne faut pas le réduire à une causalité unique. Et il y en a au moins deux très distinctes qu'il faut bien séparer. Il y a d'un côté l'apaisement qui naît de la disparition des tensions inhérentes à ce conflit autonomie-hétéronomie qui peuplait nos sociétés jusqu'à une date tout à fait récente, qu'il est travaillé profondément, bon, qui a fait disparaître justement les oppositions radicales à la démocratie qui étaient en son sein. Il y a un apaisement qui tient à une série de raisons de nature très différente. Il y a l'apaisement lié à la société de la connaissance, c'est-à-dire le consensus sur les principes de base du fonctionnement collectif. Ben oui, on sait que ça ne se discute pas. Il y a une sorte d'évidence rationnelle d'un certain nombre de principes auxquels il est vain de s'opposer. Et d'une certaine manière, cette pacification-là naît de l'écrasement de l'individu par un mode de fonctionnement auquel il ne peut que s'insérer en se taisant. Il est plus fort que lui dans tous les cas, quand bien même il proteste contre. Et puis il y a un apaisement, alors là beaucoup plus positif, qui tient à une espèce de prise de conscience encore très confuse, mais c'est celle sur laquelle nous devons compter, de ce que représente réellement le mode de fonctionnement de nos sociétés dans ses profondeurs, dans ses prémices, celles que j'ai essayé de dégager justement. Tout ça se mélange et compose un brouillard assez épais, c'est évidence quotidienne. Mais il faut le démêler, parce qu'on ne peut pas simplement... Je ne crois pas qu'on puisse se contenter de dénoncer, si vous voulez, l'évitement, c'est le comportement typique lié à la société de la connaissance, telle que j'essaie de la décrire. Puisqu'on sait comment ça marche, il est impossible que ça ne marche pas. Donc, évitons tout ce qui peut avoir l'air de contredire les principes officiels à l'intérieur desquels nous vivons. C'est ça l'évitement, fondamentalement.
C'est peut-être aussi la peur de la vérité, vous savez, la peur de savoir.
Ah oui. La paresse, hein, ça existe aussi. Tout simplement. Parce que la vérité, ça a un inconvénient, c'est que. Ça dérange. C'est pas seulement que ça dérange, mais ça oblige à travailler. Parce que c'est jamais fini, d'abord. C'est qu'un début, à chaque fois.
Monsieur le professeur, qu'avons-nous entendu au cours de ces dernières années? Avons-nous entendu de la philosophie, de l'histoire, de l'économie, du droit ou de la sociologie? Et ne serait-ce pas une discipline nouvelle qui combine en effet toutes ces approches? Et à ce moment-là, j'aurais lui donné un nom, l'appeler le gauchetisme.
Alors ça, c'est la pire des choses. Ça signifie que c'est les élucubrations d'un individu singulier qu'on suppose un peu excentrique. Et ça n'a aucune portée, quand bien même ça réunit des suffrages. C'est pas comme ça. Je crois vraiment pas qu'il y ait besoin d'aller chercher midi à 14 heures en inventant des sciences nouvelles. On en a vu pas mal dans les 30 ou 40 dernières années, et aucune n'est vraiment concluante. Je pense tout simplement que le vieux mot, il est vrai, très galvaudé, mais tous les mots le sont. Et non, je l'ai dit 50 fois, et vraiment, c'est une conviction qui m'est de plus en plus pressante. Notre problème écologique numéro un, c'est le langage. C'est le milieu naturel le plus pollué. Le mot le plus galvaudé qui soit, et en France on a des raisons particulières qu'il le soit plus qu'ailleurs, c'est celui de philosophie. Philosophie, c'est précisément ce lieu de croisement, d'après-coup, d'exigence réflexive par rapport à des savoirs qui ont leur parfaite légitimité dans leur ordre, mais auxquels on peut poser des questions qui ne sont pas dans leur ordre et auxquels ils ne cherchent pas à répondre de leur côté. Par exemple, comment se lient entre elles des approches? Il y a une approche économique qui est parfaitement légitime, il y a une approche politique qui est légitime, il y a une approche sociologique qui l'est, mais tout ça compose bien un milieu humain unique et des acteurs qui vivent tout à la fois dans l'ensemble de ces mondes. C'est précisément ce que, traditionnellement, et je crois qu'on peut renouveler le sens de ce terme, on appelle philosophie, qui n'est pas le nom d'une discipline, mais qui est le nom d'une démarche, d'un type d'exigence intellectuelle, de questionnement par rapport à des savoirs déjà constitués. La philosophie, ce n'est pas un savoir en soi, c'est une réflexion sur des savoirs constitués fondamentalement. Là, ça demanderait toutes sortes de développements pour être étayé, mais je crois que c'est ce que c'est devenu, parce qu'il y a une histoire des savoirs. Tout le temps où la philosophie, c'était en rivalité avec la théologie, la science fêtière. Et c'est encore vrai quand Hegel écrit l'encyclopédie des sciences philosophiques. C'est plus vrai. Ça, il n'y a rien à faire. Les philosophes ont eu du mal à s'y faire, mais c'est acquis. Mais en revanche, ça n'enlève rien à l'exigence réflexive qui est celle de la philosophie, qui me semble au contraire ce point de convergence naturelle dont nous avons besoin.
L'expression « pensée discriminante » n'est plus très bien comprise. On confond avec « discriminatoire ».
Si nous faisions l'inventaire de toutes les confusions, glissements de sens, dévoiements des expressions diverses, on peut faire un dictionnaire dans ce sens-là. Il serait très utile. D'ailleurs, ce serait un début de traitement écologique du problème du langage.
Comment se fait-il alors que la pluralité idéologique ou politique, comme vous l'avez bien montré, est manifestement un tripartisme entre conservatisme, libéralisme, socialisme, et essentiellement articulé autour de présent, futur et passé, que généralement, dans la plupart des démocraties contemporaines, le paysage politique s'articule plutôt sur un bipartisme gauche-droite. Et pourquoi pas un tripartisme naturellement ?
C'est en effet, je dirais, peut-être le sujet le plus crucial de la théorie politique au sens strict du mot, c'est-à-dire comment fonctionnent objectivement les systèmes politiques. Le problème de tous les systèmes politiques démocratiques, qui les rend instables par nature, c'est, si je puis dire, comme aurait dit le président Mao, de faire entrer trois en deux. Parce qu'effectivement, sur le plan idéologique, la tripartition est la règle constitutive, mais la règle pratique, pour des raisons fonctionnelles qui ne sont pas très difficiles à comprendre, c'est de schématiser ce tripartisme en une opposition majorité, en une opposition majorité-opposition. On divise. Et il y a une tension dans tous les systèmes politiques, on peut le repérer très bien, entre ces deux logiques qui relèvent de deux plans différents, la fonctionnalité d'un système politique, dégager une majorité de gouvernement, et d'autre part, les options idéologiques fondamentales. Et ça veut dire qu'on a toujours, en fait, dans les démocraties, des régimes de coalition qui disent leur nom ou ne disent pas leur nom. Ça dépend des systèmes de partis qui peuvent être très divers parce qu'ils sont conditionnés par l'histoire. Disons, avec des évolutions. La France, c'est typiquement le pays d'une... D'abord, la France a eu la particularité historiquement d'être très longtemps un régime de tripartition, avec toutes sortes de problèmes dans le parlementarisme français. Il y avait une droite, un centre, une gauche. C'est la Ve République qui a laminé le centre, qui était en gros le régime républicain classique, mais en fait le régime représentatif depuis la Restauration. Il y avait en fait trois partis, trois blocs, parce qu'après, à l'intérieur de chaque parti, à l'intérieur de chaque bloc idéologique, il y a des partis qui se créent pour des raisons, alors là, très contingentes. Vous avez typiquement sous la Ve République, un bloc libéral-conservateur contre un bloc socialiste, en gros, ou progressiste. Mais dans beaucoup de pays, notamment déterminent tous ceux, les vrais pays sociaux-démocrates, où l'alliance du mouvement ouvrier et des libéraux a été déterminante pour l'instauration du suffrage universel, l'alliance est plutôt, le bloc idéologique est plutôt libéraux-socialistes contre conservateurs. Cas anglais, le Labour a bouffé les libéraux, mais en fait, les libéraux sont dans le Labour, et éventuellement même le tiennent entièrement, en évacuant ou en rejetant sur les marges les socialistes proprement dit. Donc, c'est l'instabilité foncière du régime représentatif. Je crois que c'est sa règle de mouvement, parce que ces alliances se défont. C'est aujourd'hui, même dans les pays nordiques, par exemple, typiquement sociaux-démocrates, l'alliance gouvernementale est plutôt libéraux-conservateurs. Les libéraux sont passés à droite par rapport aux partis sociaux-démocrates classiques. Ça n'arrête pas de bouger, mais c'est un phénomène très intéressant parce qu'il illustre la différence de niveau entre ce que représente le fonctionnement politique et les options idéologiques fondamentales qui sont à l'œuvre dans nos sociétés.
Oui, dans votre idée là, de l'articulation entre la pensée symbolique et la pensée rationnelle, et vous indiquez une troisième voie.
Eh bien, là, c'est l'articulation.
Voilà, l'articulation. Moi, je trouve ça assez intéressant.
Merci.
Il y a du travail. Mais est-ce que vous voulez dire que il s'agirait de mettre en place, d'abord par rapport à ces 30 sujets, quelque chose où on isolerait d'une certaine façon dans les phénomènes ce qui relève du symbole et ce qui relève de la raison finalement, une autre façon. Ce ne serait pas « je pense donc je suis », mais « je symbolise » ou « je suis symbole donc je suis », un truc comme ça, une espèce de traversée du symbole par la raison. Je suis un peu mystique là, mais moi,
je ne crois pas que ce soit tout à fait comme ça que ça se passe. Mais si je dis « articuler », c'est pour bien préciser un point. Il ne s'agit pas de confondre ou de fusionner. Il ne s'agit pas d'intégrer. C'est un point capital par rapport à toute une série de réflexions d'aujourd'hui sur la pensée complexe, qui me paraissent surtout des pensées confusionnistes, parce que leur projet est de mélanger des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, alors qu'il s'agit au contraire, non pas du tout de vouloir les faire rentrer l'une dans l'autre, ce qui n'a pas de sens, mais de comprendre exactement à quoi chacune répond et de se situer d'un point de vue qui permet de les faire jouer ensemble sans prétendre les mélanger. On ne peut pas. Autrement dit, il faut le pas de côté qui permet ce point de vue supérieur, si j'ose dire, réflexif au sens propre du mot, puisqu'il est réflexion sur la nécessité à laquelle répond chacun de ces modes de pensée qui ont leur légitimité entière dans leur ordre. Voilà.
Monsieur, puisque nous n'allons pas vous revoir, je me permets de vous poser une question qui est un peu loin et proche tout à la fois du contenu de vos séminaires. Ma question porte sur un philosophe et un historien comme vous de la deuxième moitié, celui-là du 19e siècle, à savoir Ernest Renan, professeur au Collège de France, et pour lequel on avait proposé trois fois qu'il entre au Panthéon. Toujours refusé en raison d'opposition de l'Église catholique. Aujourd'hui, il est très oublié. Cet oubli me semble un peu injuste, car ne pensez-vous pas que dans la chaîne du savoir culturel, il a été un anneau indispensable qui a permis d'assurer la continuité de la réflexion autour du rôle structurant des religions dans la civilisation occidentale. À une époque, et il faut le remarquer, deuxième moitié du 19e siècle, où plus personne ne pensait le religieux et où on pensait beaucoup plus la révolution.
Alors, bon, d'abord, n'exagérons pas l'oubli dont Renan fait l'objet.
Il y a eu un colloque au Collège de France.
Oh non, mais vous savez, il y a des colloques surtout.
Il est quand même très oublié.
Non, j'en suis pas sûr. J'en suis pas si sûr. Écoutez, regardez son histoire religieuse, justement, c'est sa grande œuvre. Est en livre de poche. Oui, donc ça veut dire qu'il a des lecteurs. Et ce livre reste admirable. C'est un grand classique. Donc, il est classique. Donc, classique veut dire un peu oublié en fonction de l'évolution des programmes scolaires. Il peut demain, par une foucade d'un inspecteur général quelconque, redevenir un auteur canonisé, vous savez, fou. Mais vous lui prêtez, à mon sens, plus qu'il ne mérite par rapport à l'objet religion. C'est un grand historien des religions, mais ça n'est pas un grand théoricien des religions. On ne peut pas lui reconnaître cette qualité. Et il est vrai qu'il incarne une figure originale, une figure intellectuelle très attachante, parce que sa position était très difficile dans le contexte où il était. Il était entre des conservateurs vers lesquels il inclinait plutôt par tempérament, pour qui la religion, c'était le catholicisme dans sa version dogmatique, donc vis-à-vis desquels il rompait des lances et lesquels, la vie de Jésus, ça a fait causer. Et puis d'autre part, un camp républicain ou socialiste, là peu importe, farouchement anticlérical, et on comprend assez bien pourquoi dans le contexte, pour lequel c'était pas un objet de science, la religion. C'était un objet de critique au sens, alors, polémique du terme. Non, c'est l'autorité de la révélation contre l'autorité de la raison. Donc lui a effectivement su, disons, mettre en œuvre un grand projet intellectuel pour traiter avec liberté, de manière savante, l'objet religion. Mais on ne peut pas dire ce que vous lui faites dire, c'est-à-dire qu'il a reconnu la place structurante des religions dans la vie collective. S'il y a un auteur de la Troisième République auquel on doit reconnaître ce rôle, c'est Durkheim, évidemment, c'est pas Renan. Et Durkheim a fait ce que Renan n'a pas fait, quelles que soient les options théoriques qu'on puisse avoir vis-à-vis de la théorie religieuse de Durkheim.
Vous nous proposez un premier programme de travail qui, dans votre lignée d'enthousiasmant, c'est approfondir ce régime mixte dans lequel une démocratie autonome de l'autonomie trouverait ses marques et émergerait. Est-ce que dans votre pensée de la relation, il n'y a pas aussi un deuxième programme de travail particulièrement ardu, redoutable et difficile? Vous l'avez abordé d'ailleurs dans quelques-unes de vos séances. S'il y a un plan sur lequel une pensée de la relation s'impose, qui en effet ne peut ni extérioriser plus aux discussions, c'est le domaine des relations internationales, me semble-t-il. Et c'est le problème très épineux. Vous avez fait allusion à Rousseau et à d'autres philosophes politiques, que les philosophes politiques ont rarement résolu, me semble-t-il, les philosophes modernes. On sait que le projet de Rousseau était d'écrire une suite au contrat social traitant dans un magistral ouvrage des institutions politiques, suite au projet de paix perpétuelle de la vie de Saint-Pierre, des relations internationales entre différentes nations organisées par le contrat social, et on comprend bien que, outre les circonstances de sa vie particulière, il a finalement eu une certaine difficulté à aboutir à un résultat systématique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un domaine dans lequel une pensée de la nation et de toutes les articulations possibles entre État, société, histoire, droit politique pourrait jouer, mais particulièrement complexe, me semble-t-il, et on attendrait éventuellement quelques-unes de vos perspectives. Juste peut-être encore un mot, d'autant plus que c'est une pensée, c'est un domaine dans lequel le néolibéralisme a une pensée, c'est-à-dire dans lequel il y a une pensée de la mondialisation que, me semble-t-il, les gens qui ne partagent pas ces thèses ont souvent sous-estimé.
Alors, ça, c'est un point... C'est un point qui me semble discutable. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une théorie néolibérale des relations internationales vraiment constituée? Ça me paraît tout à fait contestable. Parce qu'en gros, cette pensée me paraît se résumer à deux articles qui ne font pas une théorie très élaborée. C'est la théorie de la gouvernance internationale et d'autre part, la théorie de l'universalité des mécanismes primordiaux de la société de marché, pour le dire vite. Je pense que ça se résume à ça. Est-ce qu'on peut appeler ça une théorie en bonne et due forme ? Non. Pragmatiquement, ça marche. Ça, c'est sûr que ça a une capacité de s'imposer aux esprits très, très puissante. Mais ça ne fait pas une grande théorie. Mais je crois justement que votre question touche à un point absolument crucial, qui est ni plus ni moins, sur le fond, la théorie de la mondialisation, prise au sérieux comme un phénomène politique, avec dans sa double dimension d'unification du monde et de fragmentation en unités politiques distinctes. Parce que la question que nous ramène la mondialisation, c'est celle effectivement qui sert à beaucoup d'égards de point de départ à Rousseau, c'est la société universelle du genre humain. Y a-t-il une société universelle du genre humain ? Y a-t-il une société générale du genre humain ? C'est l'implicite des thèses qui, précisément, sous un signe néolibéral, prédisent la dissolution des États-nations. C'est exactement ça qu'il y a derrière. On va vers une société générale du genre humain. C'est pas le mot n'y est pas, mais l'idée est bien là. Or, ce que je crois à l'inverse, et c'est pourquoi je me reconnais tout à fait dans le programme que trace votre question, la mondialisation, c'est la conjugaison de deux choses. Une unité de référence en train de s'installer dans la vie planétaire, avec beaucoup de convulsions, de chaos, ça ne va pas se faire gentiment, on le voit bien. Et d'autre part, une reconnaissance obligée de la multiplicité des acteurs, des entités politiques. Ce pourquoi, personnellement, je pense que ça, c'est un des paris théoriques fondamentaux qu'on peut faire aujourd'hui. Non seulement je ne crois pas du tout que la mondialisation signe la fin, même si c'est à horizon temporel relativement éloigné des États-nations, je pense au contraire que la mondialisation, c'est la mondialisation de la forme État-nation. Et donc, du problème de la relation, telle en effet que vous le définissez. C'est à partir de l'appréhension de la nature de la mondialisation qu'on peut commencer à traiter valablement de cette question des relations internationales telles qu'elles sont en train de se reconfigurer très profondément. On le voit bien, même si c'est dans une énorme confusion, comme il est de règle dans une période de transition. Je cherche une manière d'exprimer l'efficacité de cette théorie. Je pense que pour bien comprendre la mondialisation, il faut la contraster. Il faut contraster notre deuxième mondialisation avec la première, la mondialisation impérialiste. Je crois que nous sommes exactement dans le cas de figure opposée, où il y a une disparition de la forme impériale, justement. Alors, il y a des empires résiduels ou des empires tentés de le rester. Mais en fait, c'est cette relativisation générale des unités politiques les unes par les autres qui fournit la nouvelle règle de fonctionnement de ce qu'on appelle un peu abusivement une communauté internationale, mais l'abus de mots dit néanmoins quelque chose. Il y a une pluralité irréductible des entités qui composent cette communauté et c'est ces relations-là qu'il faut essayer d'élaborer, qui ne peuvent, là est la grande nouveauté, et qui nous ramène à une problématique de droit naturel d'une certaine façon, qui ne peuvent être purement compris en termes de puissance, de force ou de taille. De ce point de vue-là, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'Union européenne, quels que soient ses défauts par ailleurs. C'est l'Union européenne, c'est une union de petites et de grandes nations, à égalité. Voilà une donnée qui, à égalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'arrière-plan. D'abord parce qu'il faut des systèmes de vote. Hein, mais ils sont on a des systèmes complexes où tout n'est pas sur le même plan. Mais du point de vue de la notion de relation, là, on est en plein sur un exemple que vous connaissez bien et où on peut développer beaucoup de choses en rupture avec beaucoup de théories classiques qui me semblent alors là de plus fonctionner du tout. Les théories classiques des relations internationales me semblent gravement mises en question par le nouvel état du monde.
J'avais une petite question peut-être. Est-ce que ce n'est pas encore votre analyse justement de la forme du sujet, qui est très claire, très fine ? Est-ce que ce n'est pas un point où vous distinguez très fortement de quelqu'un qui travaille sur ce même terrain que vous, que Charles Taylor, qui lui, me semble-t-il, ne parvient jamais à se départir via l'appartenance de l'hétéronomie ?
Comment dire ? Charles Taylor est un auteur très estimable et je ne veux pas avoir l'air que j'apprécie beaucoup pour des tas de raisons et que je ne voudrais surtout pas avoir l'air de traiter à la légère. Mais c'est un philosophe catholique. Je pense qu'il ne faut jamais oublier cette dimension, tout simplement. Alors, c'est un philosophe catholique qui a totalement intégré la liberté des modernes, l'autonomie. Et il ne rêve pas de restauration catholique. C'est pas. Et en plus, en tant que Québécois, personne ne pourrait rêver de ça sur le terrain. Mais en même temps, il est tout à fait typique d'un courant important, même s'il est souterrain, de la philosophie contemporaine, chez des auteurs du même bord, qui consiste à dire les limites de l'univers démocratique sont évidentes, et on ne peut pas en disconvenir. Par conséquent, il faut aller chercher des ressources du côté de la pensée religieuse pour équilibrer, compenser, corriger les défauts inhérents à l'autonomie, à l'état pur. Et donc, en effet, de ce côté, on revient d'une manière beaucoup plus nuancée, subtile, rien à voir avec ce qu'on a pu connaître par le passé. Ce n'est pas la restauration du principe d'autorité, c'est évident. On revient à l'idée, l'autonomie ne peut fonctionner que sur fond d'une réserve d'hétéronomie maintenue quelque part. C'est ça, ça se résume à ça. Parce que dès qu'elle est toute seule, elle est incapable de faire face aux défis qui naissent de son mouvement spontané. Je crois que c'est une thèse fausse. Et qu'au contraire, il faut aller au bout de la sortie de la forme hétéronome pour trouver la forme pleine de la société autonome. C'est une toute autre démarche. Il n'y a rien à attendre, à mon sens, d'un secours hétéronome par rapport à la situation qui est la nôtre. Il s'agit, au contraire, de se demander si nous sommes bel et bien au bout des ressources de l'autonomie, ce que je ne crois pas du tout. Et c'est dans cette direction-là, c'est-à-dire par transformation plus systématique de ce qu'a pu représenter la forme hétéronome, que nous pouvons trouver les moyens, dans l'autonomie, d'un fonctionnement autonome. Ça c'est gentil de me le... Je tends à le penser par une infirmité naturelle. Mais c'est l'histoire qui arbitrera. Je vous en prie.
Vous considérez la contradiction comme consubstantielle à la démocratie, et comment vous arrivez à concilier cette contradiction avec la résorption de l'hétéronomie qui serait
Non, mais comment dire, l'autonomie ne peut être, je crois que c'est la conclusion générale, peut-être que je pourrais donner de ce que j'ai essayé de dire, qu'un travail sur elle-même contre l'hétéronomie renaissante sur un plan fonctionnel à laquelle elle est exposée par son organisation même. Voilà, il n'y a pas de contradiction là, mais il y a un appel. Autrement dit, il n'y a pas, dans l'implicite de ce que vous dites, c'est l'autonomie comme état de repos terminal. Ça, non, il n'y a pas d'autonomie pure en ce sens possible, hors de ce travail pour la conquérir en permanence, contre ce qui, à l'intérieur même de son fonctionnement, la menace. C'est ça, en effet, autonomie veut dire nécessairement tension avec elle-même. Ça, je crois que ce n'est pas imaginable autrement. Mais ça ne signifie pas contradiction. Ça signifie, c'est pas la même chose. Si vous voulez, contradiction, ça veut dire empêchement, blocage. Ça peut fonctionner comme ça, mais ça n'est pas la formule ultime qu'on peut dégager. Alors, un dernier mot, puisque, à moins que...
Oui, non, mais j'ai une question ponctuelle. Vous avez rapidement évoqué la notion de fracture des diplômes. Vous avez relié à des clivages qui voyaient simplement, en deux phrases peut-être, ceux qui, comme moi, ne perçoivent pas très bien...
Non, je me bornais à répercuter une donnée de la science politique contemporaine que j'avais le tort de croire communément partagée. J'aurais dû m'expliquer. Toute l'analyse politique des raisons des positions politiques et de leurs différences a été concentrée pendant des décennies sur, en gros, le statut socio-économique. Ça continue, hein. Bon, ça continue. Mais les politistes, en travaillant sur le terrain, ont mis en évidence le fait que la variable la plus explicative du vote, par exemple, était en fait non pas nécessairement le niveau socio-économique, pas du tout, mais le niveau de diplôme. Plus si vous prenez, nous avons en permanence avec le vote du Front National en France un laboratoire à cet égard, mais là où le fait est apparu d'une façon très criante et a fait tirer des conclusions qui ont porté beaucoup, c'est à propos du référendum européen de 2005, où de façon flagrante, le oui, la carte du oui et du non se répartissait selon le niveau d'instruction. Le non votait, le non était le fait des gens qui avaient le moins d'instruction, le oui était le fait des gens les plus éduqués. Mais c'est ce qu'on retrouve dans l'analyse aujourd'hui de tous les partis dits populistes, le Front National en France n'étant qu'un exemple parmi d'autres. Voilà, c'est ça le point. Et qui me semble à moi une donnée vraiment très significative à interpréter sur le fond. Voilà, ça n'était que ça. Bon, un dernier mot, puisque nous n'aurons pas l'occasion de nous revoir l'année prochaine dans cet amphithéâtre, mais je vous donne rendez-vous à ceux d'entre vous qui le peuvent pour le 24 juin pour poursuivre cette conversation sur toute une série de terrains. Je voulais simplement remercier ceux d'entre vous dont beaucoup me sont des visages familiers sans que je puisse mettre un nom dessus, de leur fidélité, de leur attention, qui a été pour moi un stimulant permanent de ma réflexion. Merci.